comprenez. Or, le franquisme, lui, a essayé une sorte de symbiose avec le christianisme, d'être démarrane du christianisme, n'est-ce pas, et avec un certain nombre de données d'origine sabbatéenne, dont la plus grave était celle-ci. Il croyait que le Messie ne peut venir que quand le nombre des âmes créées à l'origine du monde ait eu leur vie corporelle. Par conséquent, il fallait faire venir le plus grand nombre d'âmes dans les corps, et par conséquent, il y avait une licence sexuelle absolue dans la secte des franquistes. Or, c'est d'une famille de cette secte que Freud est né. Par conséquent, il était déjà pris lui-même dans un problème de ce genre, dans son identité juive elle-même, qui n'était pas l'identité juive normale. Alors, faites bien attention à ce problème.
Je peux te dire un truc qui tient ma pensée. Vouloir nous faire passer Freud comme un génie juif, je trouve que c'est un abus de confiance. Enfin, comme si on voulait faire de lui un militant du judaïsme. Oui. Non, je ne dis pas qu'il y a la
chose. Le judaïsme est compatible au judaïsme, ça je ne crois pas. Vous savez, je veux dire, l'analyse psychologique est une méthode juive indéniablement. Et certainement, Freud l'a pratiquée au niveau de son étude talmudique avant de la pratiquer en tant que médecin. Il ne s'est pas identifié de façon si honnête, si vous voulez, à la limite. Je ne crois pas qu'il était malhonnête, mais enfin, il était lui-même conditionné, je suppose. Seulement, la conception philosophique qui sous-tend sa praxis, si vous voulez, n'est pas du tout de nature juive. Je crois, enfin, ce qu'il m'est apparu pour moi dans mes études, c'est que le moyen le plus efficace pour lui de déculpabiliser, c'est de dévaloriser les valeurs. C'est-à-dire de dire il n'y a pas de faute puisqu'il n'y a pas de mal. Mais la stratégie juive est tout à fait autre. Le mal reste le mal. Comment ? Oui, mais c'est une...
Ce que vous proposez tout à l'heure, on ne voit pas comment quel désir ferait accéder les gens à un état moral supérieur tel qu'on puisse être jugé. Tandis qu'au moins Freud a le mérite d'essayer une thérapeutique, d'améliorer la vie des gens.
Non, mais vous posez une deuxième question. À partir du moment où le rite, pour employer ce terme, où le rite d'expiation, comme disaient les ethnologues, mais il faudrait plutôt dire dans ce problème de déculpabilisation, est réussi, eh bien, la vie heureuse se retrouve. Mais la vie tout court se retrouve, c'est-à-dire avec ses exigences de moralité. Ce que je crois surtout, c'est que les talmudistes avaient l'habitude d'employer une technique qui avait pour objectif de rassurer que bien que la loi morale soit absolument ce qu'elle est, on n'est pas jugé au niveau où on ne se trouve pas. Par conséquent, à partir du moment où une conscience est rassurée, eh bien elle retrouve sa relation aux valeurs de façon normale. Mais je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, tant que quelqu'un est en situation de maladie, comme on dit, il n'est pas soumis à la loi.
Bien aller. Rassurant, c'est bien de penser que quelqu'un soit à l'aise, rassuré, que quand ça vient de l'intérieur.
Ah, Écoutez, dans le rapport entre un ami et un malade, c'est d'abord le rapport entre un rabbin et un fidèle, et par conséquent, il va lui enseigner à comprendre la Bible de telle sorte qu'il puisse savoir ce que c'est que l'identité humaine par lui-même. Je vais vous dire de mémoire un texte qui pose ce problème. Se trouve dans une toute autre partie du Talmud. Le texte dit ceci. L'homme doit toujours opposer sa tendance au bien dans un combat, enfin je traduis de mémoire, opposer sa tendance au bien dans un combat à sa tendance au mal. S'il réussit, c'est bien. Bon, ça c'est le cas optimum. S'il ne réussit pas, qu'il s'occupe de l'étude de la loi. S'il réussit, c'est bien. S'il ne réussit pas, qu'il dise le Shema. Ils disent le texte du schéma. Je reprendrai sans le temps. S'il réussit, c'est bien. S'il ne réussit pas, qu'il pense au jour de sa mort. Voilà le texte brut. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il y a un verset de psaume qui est cité et qui donne le même rythme. Rigzou vel techetaou, imrou mi vaprem, alvishraprem, vedorous. Ça veut dire, mettez-vous en colère, et ça veut dire, je vous traduis le verset même. Mettez-vous en colère, ça veut dire, mettez en colère l'instinct du bien contre l'instinct du mal, parce que toute autre colère est une faute. Valteretaou, et ne fautez pas. Imrobiba prem, parlez dans votre cœur, ça c'est l'étude de la loi. Albishka prem, ça c'est sur votre couche, le classement, le deux mots étaient au vous, ça veut dire penser au jour où vous allez monter, au jour de l'homme. Alors voilà les niveaux de la stratégie en question. Premièrement, il faut la force affective de la moralité. Si la volonté de faire le bien surmonte la volonté de faire du mal, il y a la victoire. Bon, si elle y échec, qu'est-ce qui a manqué? C'est que j'avais la bonne volonté, mais je n'avais pas la connaissance. J'ai beau vouloir le bien, si je ne sais pas vraiment où est le bien, où est le mal, il y a échec de la conscience. Alors ce qui avait manqué, c'est l'étude de la loi. Mais à force d'étudier la loi, je vois bien la différence entre le bien et le mal. Et comme je sais que j'ai les deux tendances, alors je risque d'échouer si j'oublie le principe de l'unité de Dieu, qui est que celui qui a créé le bien et celui qui a créé le mal, c'est le même Dieu. Et c'est ce qui est dit à ce troisième niveau. Il faut dire le chemin. On a oublié de savoir que la loi, c'est la loi religieuse d'un seul Dieu. Ça veut dire qu'il y a une solution. Si le monde est tel que c'est une lutte entre le principe du bien et le principe du mal, ma connaissance de la loi morale va m'amener à la tragédie. Hein? Et je vais me dire, bon, si c'est une lutte entre la force du bien et la force du mal, et qu'elle n'a pas triomphé encore cette force du bien, moi j'y peux rien. Hein? Moi je n'y peux rien, par conséquent, je renonce à la moralité. Par trop de connaissances de l'éthique. Ça arrive souvent. Il y a la bonne volonté, il y a la connaissance, alors on renonce à tout, parce qu'on voit tellement la différence entre le bien et le mal, qu'on se dit on n'y peut rien. C'est qu'on a oublié que cela n'est que provisoire, c'est un problème qui nous est donné à résoudre et pas une fatalité. Que c'est un Dieu unique qui a créé le bien et le mal, parce qu'il y a un problème à résoudre, de l'acquisition du mérite et non pas du tout, parce que le monde est un champ clos. Vous voyez, l'importance du monothéisme à ce sujet est extrêmement grande. Si je ne sais pas que c'est le même Dieu qui a créé le bien et qui a créé le mal, qui est un scandale pour la conscience occidentale, on cherche un Satan qui aurait créé le mal, eh bien, il n'y a pas de solution au problème moral. Et puis, je peux encore arriver à ce stade où je sais qu'il y a un Dieu, donc ça s'arrangera. Mais je me dis en quoi ça me concerne. Alors que je me rappelle que je vais mourir. C'est-à-dire que ça me concerne personnellement. Et c'est les différents niveaux des forces auxquels fait appel le Talmudiste pour résoudre ce problème. Et il s'agit de savoir à quel niveau le malade a flanché, de telle sorte de savoir ce qui lui a manqué. C'est un problème qui me concerne. C'est pas un problème où Dieu est en train de choisir entre le bien et le mal. C'est un problème qui concerne ma destinée. Que je me souvienne que je vais mourir, c'est-à-dire que je vais être jugé. Et que c'est important pour moi. Et au fond, très souvent, on décroche à ce niveau existentiel. Bon, le problème moral, je sais que ça existe, mais ça ne me concerne pas. Et c'est là qu'il y a toute une stratégie d'éducation religieuse qui ne peut pas se faire au niveau du catéchisme, bien entendu, tellement nous avons vécu dans une société anormale pendant 2000 ans. Je vous donnais d'ailleurs une interprétation kabbaliste de ce même texte talmudique qui montre cela dans l'histoire de l'humanité. Il y a un premier stade de l'humanité où la loi n'était pas révélée. Simplement, le problème moral était la lutte de la tendance au bien contre la tendance au mal. Et puis finalement, la loi a été révélée. Le premier stade a duré 2000 ans. Finalement, la loi a été révélée. Et l'humanité, à travers Israël, a été occupée à la découverte de la connaissance de la loi. Ce deuxième stade a duré aussi 2000 ans, entre le moment de la promulgation de la loi et la destruction du deuxième temple il y a 2000 ans. Et puis finalement, on est arrivé au troisième stade, où l'enseignement s'est cristallisé sur le fait que Dieu est un. C'est 2000 ans que nous venons de traverser. Finalement, nous arrivons au dernier stade, où en fin de compte, l'humanité risque de redevenir morale en sachant qu'elle va mourir. Vous voyez comment se fait le déroulement historique. Ah, c'est évident, l'humanité sait. Ben justement, c'est ça que je parle. L'humanité s'est rendue compte qu'elle est sous la menace de la destruction totale, à moins qu'elle ne redevienne morale. C'est bien évident. Nous sommes à ce dernier stade.
On parle plus de religion pour autant.
Il ne s'agit pas de la religion. Il s'agit de la recherche de la morale, de telle sorte que la mort soit évitée. Je crois qu'on est à ce stade-là, c'est-à-dire nous avons baissé le niveau de moralité. D'abord, il suffisait de la bonne volonté. Après, il a fallu la loi parce qu'on n'était pas capable de savoir. Et ensuite, il a fallu être rassuré religieusement qu'il y a un Dieu. Et maintenant, finalement, tout ça ne sert même plus à grand-chose, si j'ose dire, n'enregistrez pas. Il faut la peur de la destruction pour que la force de la moralité revienne. Donc, finalement, ce que le psychiatre a redonné à son malade, et puis il remontera les différents niveaux, C'est d'abord le goût de la vie. C'est-à-dire que ça le concerne, qu'il vit tout seul, en tant que personne unique. Mais pourquoi mettre la morale en congé? C'est ça qu'on comprend pas.
Oui, il y a, dans beaucoup de années, en tout cas dans la psychanalyse,
il y a souvent, et ça a paru que l'a très bien dit, le sacrifice des autres au bénéfice de l'individu. C'est-à-dire l'analyser a tout le droit, tous les droits, contre son milieu familial, contre ses parents qui ont tort, Édipe et tout ça, tous les autres ont tort, lui alors.
Surtout son père.
Son père,
c'est
toujours
le
droit.
Dans la vie, c'est le contraire. Non, c'est le
contraire. Non, je veux dire que c'est là que se trouve le problème moral.
C'est-à-dire qu'il a le droit au dépens d'autrui. Au dépens d'autrui. Il est rare.
Tout le monde, enfin, je veux dire, au contraire, il subit, il est la dépendance de tout le monde.
Comme tout le monde. Comme tout le monde. Bien. Alors, ça, ce sera un débat.
Moi, je veux qu'on ait été un débat. Alors là, je voudrais, avec Manitou, avec Baruch et aussi contradictoire avec
Baruch, non,
pas mal,
non, pas juste.
Ceci étant,